Radio Kapi. Oh, Kapi.
Un dialogue entre les Congolais pour sortir le pays de la crise actuelle, c'est ce que propose l'opposition politique congolaise, notamment les opposants Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Joseph Kabila. Proposition contenue dans une déclaration politique signée hier 30 avril. Dans ce journal, les propos de Prince Epengé, porte-parole de la plateforme Lamuka. 1er mai, journée mondiale du travail. Au Maniema, le président provincial de la délégation syndicale des fonctionnaires de l'État peint un tableau très sombre de ses travailleurs dans cette province. Plus de détails dans ce journal. Professeur Daniel Okitundu est notre invité. Le maintien directeur du Centre neuropsychopathologique de Kinshasa CNPP était parmi les intervenants de la conférence scientifique autour du manioc, un des aliments de base largement consommé en RDC. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. L'opposition politique congolaise mise sur la tenue d'un dialogue entre les Congolais pour sortir le pays de la crise actuelle. C'est ce qui ressort dans une déclaration politique signée hier 30 avril par Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Joseph Kabila. Ses opposants au chef de l'État Félix Tshisekedi saluent l'engagement constructif de l'Union africaine, de Doha, de Washington, ainsi que l'initiative conjointe de Cinco et CC. Par ailleurs, d'après leur déclaration commune, je cite, « toute solution qui ne prend pas en compte les causes profondes endogènes de la crise, que sont entre autres la violation intentionnelle de la Constitution, la poursuite de la gabegie financière, la mauvaise gouvernance, la fraude électorale, ne peut être que factice et éphémère. » Prince Epengé, porte-parole de la Mouka, donne ici la quintessence de cette déclaration de l'opposition. Ses propos sont recueillis par Askin Zigba Tayoro.
Toutes ces solutions, ces engagements américains, et européens, africains, et ne peuvent pas aboutir s'il n'y a pas unité sur le plan interne. L'opposition politique, l'opposition armée, la société civile, tous nous devons, comme Congolais, être au centre des efforts pour retrouver la paix. Dans les efforts que les Américains et les autres font, on a déjà souligné la nécessité de respecter la souveraineté du Congo. Ça, c'est très important. Mais maintenant, la solution ne viendra pas complètement et totalement de ces initiatives extérieures. C'est à l'interne. Les Congolais doivent se parler, notamment en prenant en compte les efforts qui sont déployés par la CENCO et le CC et ramener la paix rapidement au pays.
L'Union européenne affiche son soutien aux initiatives de médiation en cours en vue d'une paix juste et équitable dans l'est de la RDC ainsi que dans l'ensemble de la sous-région. C'est le représentant spécial de l'Union européenne dans le Grand Nord, Johan Bongstam, qui l'a annoncé ce jeudi lors d'une conférence de presse ici à Kinshasa. En tournée dans la région, ce diplomate européen affirme que son organisation s'aligne derrière la dynamique de paix régionale traduite par la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha, ainsi que la déclaration de principe signée le 25 avril à Washington entre la RDC et le Rwanda. Toutefois, Johan Bongstam rappelle la nécessité de préserver les acquis du processus de Luanda et de Nairobi, tout en plaidant pour un soutien international au processus régional de l'UEAC et de la SADC. Il s'exprime au micro de Ronéline Tibonera.
Nous accueillons ces initiatives et aussi, par exemple, la haute représentante de la politique étrangère européenne, Madame Kallas, a aussi salué les signatures à Washington de cet accord de principe. Cela dit, je crois que c'est extrêmement important que chaque nouvelle initiative prend aussi en compte les acquis des processus régionaux déjà en cours. Vous savez, le travail du président angolais, João Lourenço, le gouvernement angolais, eux, ils ont investi beaucoup de ressources, énergie, prestige dans le processus de Luanda. Il existe un vrai acquis. Donc, il faut surtout éviter des situations où on recommence à zéro.
Le monde célèbre aujourd'hui le 1er mai, la journée mondiale du travail. Au Maniema, le président provincial de la délégation syndicale des fonctionnaires de l'État peint un tableau très sombre de ses travailleurs dans cette province. Kabumba Fungamali Fulgence s'étonne et regrette, dit-il, de constater qu'une journée si importante dédiée à ceux qui constituent la colonne vertébrale de l'État congolais passe inaperçu. Il demande aux dirigeants de s'amender tout en encourageant ses pairs. Kabumba Fungamali Fulgence s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
Franchement, c'est malheureux. Comme nous sommes là, nous sommes payés un salaire non décent. Un chef de bureau qui vous touche $100 aujourd'hui, alors qu'il a tant d'enfants qui doivent scolariser, même au niveau de l'université. $100. Et il y a plusieurs, la majorité des fonctionnaires et agents de l'État ne sont pas payés. Ils ont des numéros matricules non payés. Et comment ils doivent rendre service à l'État? Et l'État attend quel résultat? Plupart des fonctionnaires, quand ils tombent malades, aucun avantage social n'est payé aux fonctionnaires. Même la prime, nous sommes en train de nous poser mille et une questions. Est-ce que franchement les dirigeants que nous avons élus sont véritablement dirigeants de ces fonctionnaires? Parce que les travailleurs, c'est la colonne vertébrale de l'État congolais. C'est la main-d'œuvre de l'État congolais. Si les fonctionnaires, l'agent, l'enseignant n'est pas bien payé, n'est pas bien entretenu, et s'attend à quel rendement? Alors, nous pensons que les dirigeants congolais doivent s'amender. Ils doivent revenir à la raison. Ils doivent revenir et reconnaître et respecter les droits des autres, les droits des fonctionnaires de l'État. Alors, les fonctionnaires de l'État, je les donne encore un courage. Nous devons nous mettre debout et dire non à cette violation que l'État congolais est en train d'orchestrer contre nous pour notre vie.
Parmi ces travailleurs de l'État congolais figurent aussi des enseignants. Réunis en Assemblée générale hier 30 avril, journée nationale de l'enseignement, des enseignants membres de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC appellent le gouvernement à améliorer leurs conditions socio-professionnelles. Ils ont lancé leur appel hier donc à l'occasion de cette journée. Ces professionnels de la CRE ont également sollicité l'implication de la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté pour la réhabilitation de l'inspection générale à ses fonctions régaliennes pour la crédibilité des épreuves certificatives nationales prévues dans quelques semaines. Suivez leur porte-parole au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Les enseignants réunis à l'Assemblée générale demandent au gouvernement de donner des réponses aux problèmes des enseignants NP et NU, aux problèmes de soins de santé des enseignants, de donner des réponses aux conditions d'accueil des élèves ainsi qu'à l'épineuse question de la retraite pour plus d'efficacité de notre système d'enseignement. Les évaluations certificatives seront bientôt organisées. La synergie des syndicats des enseignants demande au ministre des tutelles de rétablir l'inspection générale de l'enseignement dans ses missions légales et régaliennes pour éviter des interférences préjudiciables à la qualité des épreuves et de payer les arriérés des primes des inspecteurs et intervenants pour garantir la bonne passation des épreuves. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC invite Madame la ministre de l'Éducation nationale de s'impliquer personnellement pour garantir des évaluations crédibles dans les différentes phases du processus.
Le ministre de l'Emploi et du Travail affirme, lui, que le gouvernement a déjà pris plusieurs dispositions afin d'améliorer les conditions professionnelles de tous les travailleurs congolais. Dans une interview accordée à Radio Okapi à l'occasion de la Journée internationale du travail ce 1er mai, Ephraim Akwakwa Nametou rassure quant à la question de l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Il revient ici sur les différentes résolutions prises au cours du dernier Conseil national du travail. Ephraim Akwakwa et Jean par Grâce Hamzati.
L'ajustement du SMIC avec effet dès la fin du mois de mai 2025 a envie de renforcer les pouvoirs d'achat des travailleurs et travailleuses en RDC. La fixation des nouveaux SMIC payables à partir du mois de janvier 2026. L'opérationnalisation de la couverture santé universelle à 2,5% par travailleur par mois. Globalement, il faudra retenir que les résultats sont positifs parce que nous avons donné les ressources, notamment supplémentaires à l'INPP, aussi à l'ONEM, mais aussi Nous avons tablé sur la question des SMIC par lequel nous avons d'abord fait un ajustement pour le mois de mai qui sera déjà payé à la fin du mois de mai avec un nouveau SMIC. Donc je ne sais pas vous donner la teneur ici parce que je garde la primaire d'abord à la première ministre aussi au président de la République. Mais sinon je dois vous rassurer que quand les travailleurs congolais seront informés, ils seront le plus heureux. Et moi je crois après ce résultat-là, nous devons compter la RDC parmi les pays qui payent très bien, qui ont un bon SMIC en Afrique.
Le tribunal militaire de garnison de Kalemi dans la province de Tanganyika a condamné plusieurs personnes hier mercredi, parmi lesquelles des officiers militaires et des policiers. Des sources rapportent que le jugement a été rendu dans trois causes différentes. Les prévenus sont condamnés à la peine capitale, d'autres à la prison à perpétuité, d'autres encore à 20 ans de servitude pénale principale. Une occasion pour le président du tribunal militaire de garnison de Kalemi d'inviter la population à faire confiance à la justice. Paul Amunanga.
La première cause implique le capitaine Dunia de FRDC poursuivi pour meurtre et il est condamné à perpétuité. La seconde affaire concerne les prévenus Mwamba Kitoko Sinaï et consorts poursuivis pour association de malfaiteurs, vol à main armée et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Deux des détenus sont condamnés à la peine de mort et un à 20 ans de servitude pénale. La troisième cause oppose le ministère public au prévenu Jean-Claude Nyembolumbu, commissaire principal de la police et consort, poursuivi pour association de malfaiteurs et vol à main armée. Tous ont été condamnés à la peine de mort. Le président du tribunal militaire de garnison de Kalemi invite la population à faire confiance à la justice. Colonel Désiré Majunda Mukole.
La population de Tanganyika doit continuer à faire confiance à l'État, confiance aux institutions régulières de la République. Elle n'est pas abandonnée. Nous sommes là. Ce tribunal est là pour elle. Et toutes les fois qu'il y aura des cas que la population n'hésite pas à dénoncer, et le tribunal va faire son travail.
Recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kindu, province du Maniema. La population hausse les tons et appelle à l'implication des autorités politico-administratives et sécuritaires. Selon elle, il ne se passe pas une nuit sans enregistrer des cas d'incursion des bandits armés dans les maisons des paisibles populations. Le cas le plus récent est celui du lundi 28 avril dernier au centre-ville où au moins trois personnes, dont un commando, ont été tuées après un cas d'incursion. De leur côté, les autorités provinciales garantissent à la population leur implication afin d'éradiquer ce phénomène. Florence Kizalunga.
C'est dans toutes les trois communes que la population crie pour sa sécurité. Avec cette multiplicité des cas d'incursion, certains se posent la question de savoir où est l'autorité de l'État. Maître Joseph Kambo Kongolo, représentant des jeunes entrepreneurs, demande au président de la République l'ajout des effectifs militaires et policiers au Maniema.
D'abord, en tant que leader d'opinion, même quand je parle ici, je me dis, peut-être même ma sécurité est en danger. L'insécurité bat record à Kindu, alors que c'est à ce même moment qu'il y a une politique militaire en place et pour lutter contre l'insécurité. On ne comprend plus rien. Les gens meurent à tout moment. Les femmes sont violées devant leurs maris et devant leurs enfants. Les gens sont tués dans leur maison alors qu'ils n'ont rien fait. Où est partie l'autorité de l'État? Où sont partis les services de sécurité? Il y a des quartiers où on ne dort plus dans les maisons. Les gens sont dehors en train de s'auto-sécuriser. C'est très grave ça. Nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans un État sérieux. En tout cas, nous demandons au chef de l'État, pour la sécurité du Maniema, de nous ajouter des policiers et des militaires. Qu'on ajoute les effectifs militaires ici. On est vraiment en insécurité. On ne sait plus à qui faire confiance.
Toujours par rapport à cette insécurité, une réunion du Conseil provincial de sécurité élargie est prévue ce mercredi 30 avril au gouvernorat des provinces. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Au sud, qui vous découte feu se font entendre dans la ville d'Uvira depuis la nuit d'hier entre les FRDC et les Wazalendo. Les communes de Kasenga, Kanvivira et Mulongwe sont les plus affectées par les combats entre ces deux forces, pourtant engagées ensemble pour lutter contre l'avancée des rebelles AFC M23 dans la ville d'Uvira. Leur cohabitation semble malheureusement difficile à cause des conflits de positionnement et des leaderships. Blaise Nonga Lamayanda.
Les coups de balle se sont poursuivis dans l'avant-midi sur les collines au-dessus de la ville d'Uvira. La goutte d'eau qui a fait déborder les vases, c'est notamment les redéploiements des phares d'essai dans les crêtes des montagnes pour mieux sécuriser cette ville. Mais pour les combattants Ouazalendo, ces crêtes des montagnes constitueraient leur lien stratégique de prédilection à ne pas partager avec l'armée loyaliste. Ces bras de fer entre les deux forces engendrent régulièrement des incidents sécuritaires dans la ville d'Uvira et affaiblit leur collaboration. Les conseils de sécurité regroupant les institutions de la province et à leur siège dans la région ont tenté en vain de créer les climats d'attente entre les FARDC et les combattants Ouazalendo. Les uns et les autres sont opposés par les conflits d'intérêts et des leaderships, ce qui engendre l'indiscipline et l'ingérence dans la gestion de la chose publique et menace dangereusement la cohésion, l'esprit d'équipe et la mise en place d'un cordon sécuritaire qui assure la population. Pendant ce temps, nous apprenons que les rebelles de l'AFC M23 auraient débordé hier les montagnes qui séparent la chefferie de Kaziba jusqu'à Louvungi, dans la plaine de la Ruzizi, à moins de 50 km de la ville d'Uvira.
Au Nord Kivu, des violents combats opposent ce jeudi le combattant de l'AFC M23 aux groupes armés locaux dans la partie nord du territoire de Masisi. Ces affrontements, qui en sont à leur troisième jour, se poursuivent dans la localité de Nyangé, groupement Abachalimokoto, indique plusieurs sources. Les deux forces tentent chacune d'occuper cette zone reconnue pour sa grande potentialité agricole. Blaise Shindani Kambala.
Les combattants du groupe armé Alliance des Nationalistes Congolais pour la Défense des Droits Humains, ANCDH, de Jean-Marie Bonané, ont attaqué à la nuit tombée hier mercredi la position des rebelles AFC M23 sur la colline Kivugura, localité Nyangé. C'est dans le groupement Bachalimokoto. Les combats se sont poursuivis au-delà de 20h hier avant de reprendre encore tôt ce jeudi, indiquent nos sources. Elles précisent que des combats ont éclaté mardi dernier dans cette zone occupée depuis plusieurs mois par les rebelles AFC M23. Des détonations d'armes lourdes et légères, voire des mortiers, sont entendues dans la localité. Rappelons que ces combats ont commencé dans la localité de Biboué avant de s'étendre vers celle de Nyangé, ce qui rend la vie difficile pour la population civile. Certains habitants, contraints de fuir les milieux, se dirigent vers Mpati ou Kalengera, alors que d'autres restent terrés dans leurs maisons. Selon nos sources, la situation reste précaire et volatile dans la zone.
Actualité internationale.
Le meurtre d'un député kényan abattu hier mercredi en pleine rue dans la capitale Nairobi semble prémédité, affirmation ce jeudi de la police sans lever le mystère qui l'entoure, alors que le président William Ruto a demandé à ce que les responsables rendent des comptes. Le meurtre de Charles Ongondo Were, membre du mouvement démocratique orange de Raila Odinga, opposant historique kényan qui a formé une alliance avec le président Ruto ces derniers mois, a eu lieu ce mercredi en début de soirée. La nature de ce crime semble être à la fois ciblé et prémédité, déclaration du porte-parole de la police de Nairobi, Mushirinyaga, dans un communiqué publié sur X.
L'invité.
Le manioc rend-il bête? C'est autour de cette question que experts et chercheurs étaient réunis au cours d'une conférence scientifique le mardi 28 avril dernier à l'université de Kinshasa. C'était pour analyser l'impact de cet aliment de base largement consommé en RDC. Daniel Okitundu, médecin directeur du Centre neuropsychopathologique de Kinshasa, était parmi les intervenants. Il a apporté un éclairage médical et scientifique sur les effets possibles du manioc sur le cerveau et le système nerveux. Daniel Okitundu est notre invité. Il s'entretient avec Benjamin Moudoumbi. Suivez.
Bonjour, monsieur Daniel Okitundu.
Bonjour.
Quel était l'intérêt d'aborder la question « Les maniocs rendent-ils bêtes ?» dans une conférence aussi scientifique?
Oui, c'est pour répondre à la préoccupation de la population par rapport à ce qui circule dans les réseaux sociaux. Et beaucoup de gens se sont posé des questions pour savoir si le manioc, qui est l'aliment principal de notre pays, rend réellement bête. Qu'est-ce que les scientifiques pense. Alors, il fallait tenir cette conférence pour éclairer l'opinion sur les bienfaits du manioc et le risque sanitaire lié à la consommation de produits à base de manioc.
Existe-t-il un lien entre la consommation de manioc et des troubles neurologiques ou cognitif?
Oui, il existe un lien entre la consommation de produits à base du manioc amer mal détoxifié ou non détoxifié et le trouble neurologique. Alors, il y a deux types de manioc, le manioc doux et le manioc amer. Le manioc doux, on peut consommer ces produits sans problème. Mais le manioc amer, il faut absolument le détoxifier d'une substance qui est un poison qu'on appelle cyanure, constitué de carbone et d'azote.
Vous ne pensez pas qu'il serait plutôt impérieux de les identifier pour limiter les dangers que vous venez de signaler tout à l'heure?
Les deux types de manioc sont bien connus des agriculteurs. Mais le problème, c'est lequel? Du point de vue de la production vivrière, c'est le manioc amer qui est plus rentable parce qu'il pousse dans des conditions difficiles et le rendement est important. Et puis les voleurs ne peuvent pas les voler, ni les animaux qui consomment le manioc ne peuvent les consommer.
Mais après, c'est les populations qui sont exposées.
Oui, les populations sont exposées. Ce n'est pas du fait parce qu'on ne consomme pas le manioc amer. Tout aliment doit être bien préparé pour qu'il soit sécurisant du point de vue alimentaire. Alors le produit à de manioc amer, pour le consommer, il faut être sûr que ça a été détoxifié.
Pouvez-vous nous expliquer l'effet de certaines substances contenues dans les manioc sur les systèmes nerveux humains?
Oui, dès que le manioc est récolté et qu'il est travaillé, ça libère ces substances qu'on appelle glycoside cyanogène, libère l'acide cyanhydrique qui est constitué de l'hydrogène, du carbone et de l'azote. C'est un poison très puissant. Peut aussi modifier négativement le fonctionnement du cerveau et provoquer une excitation et générer ainsi des troubles de l'humeur, des troubles émotionnels et des troubles de comportement. Mais il y a une autre substance, le cyanate, qui est une substance très dangereuse parce qu'elle modifie les protéines qui se trouvent dans notre corps et au niveau du cerveau. Ça provoque la mort progressive des cellules du cerveau. Ce qu'on appelle la neurodégénérescence. Il y a aussi une autre substance qu'on peut avoir, qu'on appelle ATC en abrégé, qui est excitotoxique, c'est-à-dire que ça excite le cerveau. Et pour que toutes ces affections apparaissent, il faut qu'on ait une alimentation insuffisante en protéines, en vitamines dont nous avons besoin pour bien fonctionner, pour bien vivre.
Que recommanderiez-vous aux populations qui consomment les manioc comme aliments de base pour éviter d'éventuels risques neurologiques?
Il faut détoxifier le manioc. Dans le technique traditionnelle, le manioc, qu'il soit doux et amer, on le mettait dans l'eau des marais ou à côté des rivières pendant 3 à 4 jours et après on les séchait, les cyanures étaient déchargées du manioc. Maintenant, à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences, il y a la professeure Yandjo qui a mis au point des techniques qui permettent de détoxifier convenablement le manioc amer et le consommer de façon sécurisante. Donc, il faut informer et sensibiliser la population sur les risques qu'il y a à consommer le produit de manioc amer non détoxifié et sur les méthodes actuelles simples qui permettent de décharger ce manioc du cyanure. Mais les procédures de traitement alimentaire de fer de manioc éliminent les cyanures et comme ça le fer de manioc constitue par ailleurs un bon aliment. Pourvu qu'on ne mette pas les bicarbonates. Mettre les bicarbonates dans le pondou, c'est abîmer la valeur nutritionnelle et protectrice de fer de manioc pour le système nerveux.
Professeur Daniel Okitundu, je vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Debs et Vita, un journal présenté par Noéla Luzitu, le tout sous la coordination de Blaise Shindani Kambala.